Donc, nous allons commencer une étude qui sera sur plusieurs messages sur la tentation. Un banquet qui passait le dernier gâteau sur un plateau devant un homme âgé, bien portant. Il avait déjà mangé une part. Il s'est dit, oh, je ne devrais pas, mais il a quand même pris. Une jeune femme alcoolique qui était devant la table où il y a toutes les coupes était angoissée. Elle dit, oh, je ne devrais pas. Et puis, elle a pris quand même une coupe. Il y avait un adolescent qui la regardait de loin. Et lui, il luttait contre des obsessions, pornographie, des choses comme ça. Il a dit, oh, je ne devrais pas. Et puis, il est tombé. Une mère de famille qui était présente, qui était lasse de ses problèmes de couple, elle était seule ce soir-là. Et elle a vu un collègue de travail de son mari. Elle a dit, oh, je ne devrais pas. Puis, elle est tombée. Et puis, il y avait un serveur. Il a vu un billet tomber d'une poche. Il a mis son pied dessus. Il s'est dit, oh, je ne devrais pas. Puis, il a quand même pris. Il l'a mis dans sa poche. Et ça, c'est tous des exemples de tentations qui sont possibles. Et il y en a plein d'autres. Tous, nous vivons la tentation au quotidien. Nous sommes fragiles et ballottés par des désirs, des pensées qui sortent de notre mauvais cœur. Et nous nous disons souvent cette phrase, même si elle n'est pas audible, oh, je ne devrais pas. Et puis, ben, qu'est-ce que nous faisons après? Qu'est-ce que nous faisons? Alors, on va commencer par voir, hein, ensemble l'origine de la tentation. Qui est à l'origine de la tentation? En parlant de tentation, si on a un petit peu de connaissance, de culture biblique, on va rapidement penser à l'arbre interdit qui était dans le jardin d'Éden, et puis au serpent qui a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Et ce passage de la Genèse, ça explique beaucoup sur la tentation. Alors on va voir toutes les personnes qui étaient présentes ce jour-là dans le jardin d'Éden. Alors on est tous d'accord sur le fait que le diable, sous la forme d'un serpent, a tenté volontairement Ève. Il est certain que le serpent est, pour une bonne part, à l'origine de la tentation. Et on le voit dans cette histoire de la Genèse. C'est lui qui a préparé la chute de l'homme par cette question, Dieu a-t-il réellement dit? Autrement dit, mais non, Dieu n'a pas dit que c'est interdit. Mais non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Tu peux manger de cet arbre, vas-y, vas-y, il n'y a aucun problème. Et c'est pas pour rien que le diable est appelé le tentateur. C'est qu'il est vraiment actif pour provoquer la tentation chez les hommes. Sans qu'on le cherche, il va mettre devant notre nez exactement la chose qui est pour nous une occasion de chute. Il peut s'arranger pour que ça tombe comme sur un plateau, là, devant nos yeux. Il n'y a plus qu'à se servir. C'est très simple. Et puis ensuite, quand c'est là devant, il nous invite à le faire. Il nous pousse. Et les incroyants, en vivant des choses comme ça, ils se disent parfois même, ah ben c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est juste là. Regardez, il n'y a qu'à le prendre. Je connais une femme, hein, qui était d'un revenu modeste. Hein, et qui voulait faire quelque chose de bien, elle voulait changer la moquette dans la chambre de ses enfants. Donc un désir louable. Elle avait rassemblé ses petites économies, ses maigres économies pour réussir à le faire. Et puis elle va au magasin et elle choisit sa moquette, elle fait ses courses, elle achète plein d'autres choses. Et quand elle arrive à la caisse, on passe le gros rouleau sur le tapis, les articles, etc. Ça va? Boum. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, mon petit bonhomme? Michael. Donc, elle passe tous ses articles sur le tapis. Et puis, arrivé au moment de payer. En fait, avec tout ce qui se passait, etc., la vendeuse oublie de facturer la moquette. C'était quand même une somme importante, hein. Elle avait facturé toutes les autres choses, mais bon, ça arrive. Des fois, elle était distraite. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, mais oh, ça c'est incroyable. Elle n'est pas en train de me facturer la moquette. Ah, mais c'est une bénédiction. C'est une bénédiction parce que Dieu voit que je suis dans le besoin et il me permet d'économiser le prix de la moquette. Et elle n'est pas retournée pour rembourser cette moquette. Et c'est comme ça que les incroyants, ils peuvent regarder parfois certaines tentations comme étant une bénédiction. C'est une bénédiction de Dieu, la grâce de Dieu. Parce qu'ils ne voient pas toujours ce qui se cache derrière la tentation. À Lyon, dans une cathédrale, on peut trouver une sculpture de la tentation. Elle représente un très beau jeune homme, séduisant, présentant bien sûr une pomme dans la main, puisque eh bien, en France, tout au moins, on pense que c'était une pomme. Et derrière, dans le dos du jeune homme, il est sculpté plein de serpents et de crapauds, plein de choses qui sont hideuses. Et ça, c'est la particularité de la tentation. Derrière, devant, elle présente bien, elle est belle, elle est séduisante, elle donne envie, il y a un attrait. Et puis derrière, elle est ignoble, elle est hideuse, parce qu'on ne voit pas toujours la face qui est cachée. Au couple, l'apôtre Paul a donné un conseil. Prenez 1 Corinthiens 7, verset 5. 1 Corinthiens 7, verset 5. Il est dit, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Donc Satan cherche un moment favorable, l'instant où on est dans une position de faiblesse. Quand nous sommes seuls, et que nos devoirs les plus importants, ils sont plus devant nos yeux. Ici, c'est quand le mari ou quand l'épouse sont loin l'un de l'autre. À ce moment-là, on ne pense plus forcément à l'engagement que l'on a pris, à la responsabilité, hein. On dit loin des yeux, loin du cœur, en ce qui concerne la tentation pour ce genre de choses, ben c'est vrai. Et quand il y a une séparation conjugale, eh bien c'est un facteur supplémentaire de risque pour tomber dans la tentation. Alors là, on ajoute à ça des problèmes conjugaux, séparation physique plus problèmes conjugaux, et là, eh bien, ça fait une proie vraiment très facile pour être tenté par le diable. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas prendre à la légère les enseignements de la parole de Dieu, et quand Dieu le dit ici, de peur que Satan ne vous tente, attention. 1 Thessaloniciens 3, verset 5.1 Thessaloniciens 3, verset 5, il est dit, Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et que nous n'ayons travaillé en vain. Et ici, Paul avait amené plusieurs Thessaloniciens à la conversion, il les avait enseignés, il les avait nourris de la parole de Dieu, mais il avait dû partir de Thessalonique. Sous la pression des persécuteurs. Et là, eh bien, on voit que c'est encore une situation de faiblesse pour des croyants. Quand eh bien, des jeunes croyants, des jeunes convertis, se retrouvent tout seuls, et il n'y a plus les pasteurs, il n'y a plus les anciens, il n'y a plus les hommes spirituels, les chrétiens qui marchent avec le Seigneur, qui sont autour d'eux pour les aider, pour les protéger. Et on comprend que Paul craignait que le tentateur ne les ait tentés. Parce que le malin cherche la situation de faiblesse, toujours. Quand le diable, pardon, le diable n'est pas venu voir Jésus pour le tenter juste après qu'il était un bon repas, comme par exemple juste après les noces de Cana, mais il a choisi d'aller le voir après 40 jours de jeûne dans le désert. C'est là, au moment où le corps du Seigneur était affaibli, où il avait faim, il dit, il eut faim. À ce moment-là, il a choisi d'aller le tenter. Et de même, le serpent ne s'est pas adressé à Adam, qui lui avait entendu le commandement de la bouche de Dieu. À Adam, le serpent n'aurait pas pu lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? Satan, pardon, Adam aurait dit, mais bien sûr que Dieu a dit, je l'ai entendu, je le sais. Mais il s'est adressé à Ève, qui elle n'avait pas entendu directement Dieu le lui dire. elle l'avait entendu par un intermédiaire, par la bouche de son mari. Alors, eh bien, tout ça, ça a pu semer le doute dans son cœur. Là encore, il cherche la personne qui est faible, qui est dans une situation de faiblesse et qui est plus disposée à tomber. C'est elle qu'il va choisir de tenter. Donc, il faut que nous, on se méfie des situations où on sait que là, attention, je suis dans un domaine où je suis faible. Et puis, il faut aussi veiller sur ceux qui sont dans des situations de faiblesse et prier pour ceux qui sont dans des situations de faiblesse. Alors, on va voir plus tard, dans d'autres messages, comment lutter contre la tentation. Donc, le diable est donc, pardon, très souvent à l'origine de la tentation. Mais parfois, ce n'est pas lui. Une fois qu'Ève a pris du fruit qui était défendu, elle a en quelque sorte tenté son mari, elle lui a tendu. Vas-y, mange. Il est bon, finalement, ce fruit, il est bon. Et elle l'a tenté. Et parfois, la tentation, elle vient des autres. Elle vient pas forcément du diable. Et il faut aussi se méfier de celui qui m'est proche quand il veut m'entraîner à faire des choses que Dieu ne veut pas que je fasse. Et parfois, parce qu'on aime la personne, on ne veut pas la décevoir, alors on cède à une désobéissance de Dieu. Et ça, c'est très fréquent dans les amitiés chrétiennes. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui est beaucoup plus mondain, beaucoup plus charnel, qui pousse en fait dans une mauvaise direction. Viens, on va faire ça, c'est bien, on va aller s'amuser. Et puis on se laisse entraîner. Adam, il aurait très bien pu dire, non, Ève, non, Dieu a dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Mais il était faible, il s'est laissé entraîner, et il est tombé aussi. Et ça soulève un autre aspect du sujet. C'est que il faut veiller à ne pas être soi-même une tentation pour les autres. Il ne faut pas que nous, on devienne une Ève pour notre frère ou pour notre sœur. Et par exemple, les jeunes femmes, les jeunes filles, elles ne se rendent pas toujours compte qu'elles deviennent des occasions de chute pour leurs frères. Parce qu'elles n'ont pas toujours une tenue qui est pudique, tenue qui est décente. Dans la période estivale, on se dénude, surtout ici, hein, il fait 30, 33, et hop, on découvre, on découvre, on découvre. Parfois, c'est même pas d'une manière pernicieuse, c'est même pas parce qu'on a envie de faire mal, c'est innocent, parfois. Il n'y a rien de tordu dans l'esprit de la fille qui pense le faire ou qui s'habille le matin. Elle ne pense pas forcément à mal, mais elle oublie une chose, ou elle ne le sait pas, c'est qu'un homme ne fonctionne pas comme une femme. Ils ne sont pas du tout pareils. Et un homme, il est très très sensible à ce qu'il voit. C'est vraiment, c'est ce qui touche au cœur. Alors qu'une femme, elle est beaucoup moins sensible à ce qu'elle pourra voir d'un homme. Alors elle va s'habiller d'une certaine manière, sans trop réfléchir, avec des dessous qui deviennent visibles, avec des décolletés plongeants, avec des choses transparentes. On finit par voir les dessous, on le voit. Et elle n'y pense pas. Et elle devient une occasion de chute pour son frère. Et ça, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Et on peut éviter cela. Parce que cette sœur, elle se rend coupable. C'est elle qui fait un croche-pied à son frère, sans même y penser peut-être. Alors il faut qu'on évite d'être un outil du diable et une occasion de chute pour notre frère, pour notre sœur. On a vu que le serpent, il peut être à l'origine de la tentation. On a vu également que l'autre, notre frère, peut être à l'origine de la tentation. Alors il ne reste que deux personnes dans le jardin, c'est Adam, c'est Dieu. Prenez Jacques 1, verset 13. Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Et Adam et Ève ont pu se dire que finalement, s'il n'y avait pas eu d'arbre dans le jardin d'Éden, ben, il n'y aurait jamais eu de tentation. Au moins, ils n'auraient pas été tentés d'en manger le fruit. Alors finalement, c'est qui le tentateur? C'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui tente? Est-ce qu'il a placé l'arbre? Alors on peut répondre simplement, bibliquement, hein, on vient de le lire, Dieu ne tente personne. Donc c'est sûr, ce n'est pas Dieu qui a tenté. Mais ça, c'est un peu simple comme réponse, hein. Ça ne convient pas toujours à tout le monde. On va garder sa main dans Jacques et lire un petit peu le contexte, hein, les versets dans Genèse, chapitre 2, verset 9. Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et puis on peut lire versets 16 et 17, toujours chapitre 2. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et Dieu, ici, a placé devant Adam deux choix. Faire ce que Dieu demande ou ne pas faire ce qu'il demande. Et ce n'était pas une question de faire le bien ou faire le mal. Ce n'était pas une question qui était d'ordre moral. Le fruit en lui-même, il n'était pas un péché. Manger un fruit, ce n'est pas un péché en soi. Il n'était pas en train de placer un péché devant Adam. Il a simplement placé un choix. C'était une question d'obéissance ou de désobéissance. Et c'est tout. Et puis de plus, Dieu ne pouvait pas inciter Adam au mal, puisque Adam n'avait aucune connaissance du mal. Adam n'a pris conscience du mal qu'une fois qu'il a pris du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant ça, le mal ne pouvait pas avoir d'attrait pour Adam, puisqu'il ne le connaissait pas. Aucune connaissance. Et donc, même sa première inclinaison logique, c'était d'obéir à Dieu. Dieu n'a pas planté l'arbre de la connaissance comme étant une source de tentation, mais il a plutôt planté l'arbre du choix. L'arbre du choix était là, devant lui. Et il pouvait simplement choisir d'obéir, choisir de désobéir. Et s'il désobéissait, la connaissance de la conséquence de la conséquence, pardon, était connue d'avance. C'était, tu vas mourir certainement, c'est sûr. Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Donc, il ne les a pas tentés dans le jardin d'Éden. C'est Satan qui a tenté Ève. Et ça nous amène à une autre question, mais pourquoi Dieu a-t-il permis que Satan tente Ève? C'est vrai. S'il n'avait pas laissé le serpent parler à Ève, elle ne serait peut-être pas tombée, elle n'aurait pas entraîné son mari, et puis ben, toute l'humanité serait aujourd'hui dans la pureté. Ce serait magnifique. Dieu n'a pas laissé Satan libre de les tenter pour les faire chuter, mais Dieu a permis qu'il les tente pour les obliger à faire le choix. C'est pas pareil. Il fallait qu'ils choisissent d'obéir ou de désobéir, de suivre Dieu ou de se rebeller. Donc Dieu les a obligés à prendre la décision, à se déterminer pour ou contre. Et ce n'était pas quelque chose qui était difficile pour Ève que de refuser d'écouter le serpent. C'était quelque chose qui était très simple, parce qu'elle n'avait pas encore ce mauvais cœur qui la pousse au mal. Et elle ne connaissait pas le mal. Donc c'était simple, très simple pour elle. Elle aurait pu dire, mais non, Dieu nous a dit qu'il ne faut pas manger de l'arbre de la connaissance. Non, je n'en mangerai pas. Va-t'en. Laisse-moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors c'est Jacques qui nous l'explique. Chapitre 1, verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et c'est Ève qui a permis à la convoitise de naître dans son cœur. On lit dans la Genèse que sur les dires du serpent, elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais pourtant, elle n'en avait pas encore mangé. Comment elle a pu voir tout ça? Simplement parce qu'elle a cru sur parole le serpent. Et en le croyant, elle a commencé à désirer du fruit. C'est la convoitise qui est née dans son cœur. Elle a été amorcée par sa propre convoitise, par ses propres désirs, de se régaler du fruit, d'avoir plus d'intelligence, d'être même comme Dieu. Et quand on permet à la convoitise de naître dans notre cœur, alors il n'y a qu'un pas avant la chute. On est vraiment à deux doigts de tomber. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Donc s'il faut chercher le plus grand tentateur, ben, c'est sûrement nous-mêmes. C'est nous-mêmes. C'est notre convoitise. Nous n'avons pas forcément besoin du diable ou de quelqu'un d'autre pour être tenté. On peut se tenter soi-même tout seul. Il suffit de laisser partir ses pensées, vagabonder, et puis hop, on regarde, on convoite, et puis ça y est, on est tenté. Pourquoi il y a certaines personnes qui sont complètement insensibles à une forme de tentation, et puis d'autres, mais vous le mettez devant les yeux, et ils tombent. Pourquoi? Il y a une si grande différence. Pourtant, vous les mettez tous les deux devant la même tentation. L'un passe à côté, il n'en a rien à faire, et l'autre, ici, vôtre. Parce que chacun est attiré, amorcé par sa propre convoitise. S'il n'y a aucune convoitise, aucun désir pour quelque chose en nous, alors on est très fort dans le domaine, aucun problème. Mais s'il y a un petit peu de convoitise en nous, alors on est susceptible de tomber, on est faible. On va être tenté. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. C'est donc de nous qu'il faut se méfier le plus. Et si on sent un début de convoitise en nous, alors il faut faire tout de suite marche arrière, immédiatement. Parce que si on laisse un petit peu de convoitise mûrir dans notre cœur, elle va enfanter obligatoirement le péché. La tentation, en elle-même, elle n'est pas un péché. Mais c'est l'action de céder à la tentation qui est un péché. Henry Snowden est arrivé à la fenêtre d'un Burger King aux États-Unis, en Floride. Il passe commande, paye des hamburgers, un coca, etc. Il paye, il reçoit ses deux sacs, il les met dans sa voiture, il va se garer je ne sais pas où. Donc il ouvre ses sacs et là il a le plus grand choc de toute sa vie. L'hamburger, il était chaud, il avait l'air très bon, les frites aussi, le coca délicieux, c'était pas ça, tout allait bien. Mais dans le deuxième sac qu'il a ouvert, il trouve 4170 dollars en liquide. Vous imaginez le choc. Alors, ce n'était pas la promotion Happy Meal de la semaine. Hein. Ça n'avait rien à voir avec ça. C'était une erreur, bien sûr. C'est que ce Burger King, en fait, le manager, avait décidé de mettre l'argent de la recette, semaine après semaine, dans des sacs, comme les sacs qu'on donne aux clients. Et le but, c'était pour des problèmes d'attaque à main armée, pour que ce soit un sac ordinaire et pas un sac de banque. Et la chose, c'est que le manager a eu la maladresse de poser le sac trop près de la personne, et puis il a cru que c'était un tel qui lui avait mis son coca, je sais pas quoi, et il lui a mis les deux sacs dans la voiture. Snowden, en ouvrant le sac, savait que la bonne chose à faire, c'était de ramener l'argent immédiatement au Burger King. Mais il a dit plus tard, hein, j'ai été terriblement tenté. Terriblement tenté. Et on comprend, hein? Vous imaginez aller au McDo d'Auchan, là, et on vous remet un sac avec 4000 euros. Le choc. Mais Snowden n'a pas commis un péché en étant terriblement tenté. Il n'a pas péché. Parce que la tentation, ce n'est pas un péché. On peut très bien vivre des tentations qui sont très fortes, qui nous assaillent, et on reste pur. Ça, c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a vécu. Lui, il a connu une tentation qui est très, très forte. Il a eu la tentation de fuir la croix. C'est-à-dire, il était venu pour mourir, Il était venu pour offrir sa vie en sacrifice pour nos péchés. Et puis pendant un instant, eh bien, ça lui est passé dans l'esprit, mais je pourrais peut-être échapper à ça et ne pas vivre la mort de la croix. Il a été tenté. Il a eu cette pensée de la délivrance de l'épreuve. Mais il ne s'est pas attardé une seule seconde sur l'idée qui était séduisante. Immédiatement, il a dit à son père, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et Jésus a été tenté encore en bien d'autres choses. Prenez Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Il est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Et Jésus a vécu toutes nos tentations, et puisqu'il a été tenté comme nous en toutes choses, et que Jésus est resté pur en toutes choses, eh bien on peut dire la tentation n'est pas un péché. Mais c'est l'action de céder à la tentation qui devient un péché. Snowden a ramené finalement le sac à Burger King. Il est resté absolument intègre. Malgré que la pensée de garder le sac, ça lui est passé par l'esprit. J'ai lu dans un article de journal qui rapportait ce fait, hein, c'était dans les faits divers, hein, qu'il a été accueilli avec des larmes. Imaginez le manager, là, il a vu sa place chaud, hein. Des larmes et vraiment de la reconnaissance. Un repas gratuit, Burger King. On lui a même promis, quelle compensation, hein. On lui a même promis quand même une récompense. Et vous savez, il a dit, ma récompense, c'est de garder une conscience pure. Parce qu'il se sentait soulagé. Vraiment, là, ça lui a fait beaucoup de bien de rendre cet argent. Snowden n'a donc pas cédé à la tentation. Ève aurait pu faire la même chose avec le serpent. Elle pouvait refuser l'idée de manger du fruit. Dieu me l'a interdit, je n'y pense même pas. C'est même pas la peine. Je ne l'envisage pas. Peut-être qu'elle s'est dit, je ne devrais pas. Et puis, elle est tombée, elle a quand même mangé du fruit. Adam, à sa suite, quand elle lui a tendu le fruit, peut-être il s'est dit, mais je ne devrais pas. Et puis, il a quand même pris, il a quand même mangé. Et ils sont fautifs, ils ont cédé, ils sont tous les deux fautifs. Et quand nous, on cède à la tentation, on devient fautif. Alors qui est à l'origine de la tentation? Satan, c'est certain. Il est pour une bonne part à l'origine de nos tentations. Parfois, c'est les autres. Alors attention à soi, de ne pas être un objet de tentation, une source de chute, ou bien de soi-même céder à la tentation de quelqu'un. Et puis nous, eh bien c'est certain. Nous sommes souvent notre propre tentateur. Nous nous tentons nous-mêmes en allant faire, voir à des endroits où il ne faut pas. On est toujours impliqué à cause de notre convoitise, mais jamais Dieu. Dieu ne nous tente jamais. On va s'incliner dans la prière.